Bonjour à toutes et à tous. Mes camarades et moi-même avons eu la chance de bénéficier d'une formation réalisée par les animateurs de Principe Actif. Issus de divers milieux, des animateurs de différentes MJC, des élus de villes alentours ou encore des personnes intéressées par le média de la radio, nous avons tenté l'expérience de cet univers. Vous entendrez donc le travail de Daniel, Manon, Elodie, Akat, Thomas, Didier, Fredo, Guy, Richard, Sylvain, Nathan et moi-même, Violette. Vous allez donc pouvoir entendre le fruit de notre travail.
Et quand tu sais qu'un battement d'aile de papillon peut être la cause d'un ouragan à l'autre bout de la planète, scientifiquement prouvé et dans la vraie vie, approuvé par tous, l'effet papillon, ça existe. Tu changes un détail de ce qui se passe, ça a des répercussions sur beaucoup de choses.
Principe actif.
Donc au programme, je vous disais, une interview du Club Laser. Nous aurons également un portrait de la patronne d'une brasserie du centre-ville de Breteuil, La Terrasse. Nous pourrons avoir la chance d'écouter l'interview d'un photographe qui a exposé sous le nom de Verticality. Ensuite, nous aurons une touche de poésie qui sera suivie par une interview sur les mangas avec Gaël Calvé. Et nous terminerons avec un micro-trottoir sur les loisirs. Mais tout de suite, un micro-trottoir sur les médias locaux.
Si je vous dis médias, qu'est-ce que ça évoque pour vous ?
Moi, les médias, c'est, on va dire, les informations, la télé, c'est un peu de tout, quoi, surtout la radio.
Donc, suivi d'informations sur la vie courante de tous les jours pour informer toutes sortes de personnes de ce qui se passe dans le monde.
Les médias, c'est un peu le tout, hein. C'est le journal, c'est la télé, c'est l'information, oui.
Donc, soit local ou national, l'divertissement, mais l'information.
Là, c'est l'information avant tout.
C'est une communication, enfin un transfert de communication via les journaux, la télévision, la radio.
Un média.
C'est une bonne question.
Bah, principalement, moi, c'est sur les applications mobiles. Le fait de s'informer, de rester au courant, si jamais, étant donné que nous sommes commerçants, si on vient à discuter avec la clientèle, savoir réagir et savoir un petit peu rebondir sur une discussion.
Pour vous, un média local, qu'est-ce que c'est ?
Aucune idée.
c'est le journal, de manière. Il y a les panneaux publicitaires.
Bah chez nous, on a FR3 souvent sur Nantes. Autrement, on a des journaux locaux, Ouest France, Presse Océan.
Facebook, 27 Actu.
Beaucoup sur Internet en fait.
Ah ouais, ouais. Que du réseau, que sur Internet quoi. Je regarde pas trop la télé.
Et vous, par rapport à votre centre d'intérêt, qu'est-ce que vous attendez d'un média local ?
Tout ce qui est information de la commune en fait.
On me renseigne, je sais pas, sur ce qui se passe près de chez moi.
Faire parler de notre ville, de notre canton. Et après parler un peu des alentours, de ce qui se passe. On n'est pas souvent très très informé, même dans les journaux, tous ces trucs-là. Alors après, ouais, si on avait à savoir un peu ce qui se passe aux alentours, et après élargir, oui, pourquoi pas.
Une ouverture, quoi.
Voilà, une grande ouverture, quoi.
Bah, les informations qu'on peut regarder à l'heure actuelle, bon, c'est la télévision, hein, donc il n'y a pas de. Tout le monde regarde la télévision. Normalement, les infos, au moins un minimum. Et après, il y a la dépêche, les journaux régionaux, comme le Réveil Normand, ou des choses comme ça. Voilà, au niveau des médias, ce qu'on a quoi, ici, quoi, en fait.
Et puis la vie locale, tout ce qui peut s'y faire, et pour qu'on nous informe à ce moment-là. Et voilà, c'est tout ce que je demande à la radio. Une information autre que ce qu'on peut entendre habituellement. Voilà ce qui nous concerne, nous, davantage, quoi, localement.
Et en poussant les choses un petit peu plus loin, est-ce que vous seriez prêt à participer, à la limite, pourquoi pas, à un problème radio ?
Ben, oui, malheureusement, j'ai un problème d'élocution. Je parle mal, donc c'est pas toujours à la radio possible de se faire entendre, de se faire comprendre. Mais pourquoi pas, oui. Pour moi, ben, personnellement, ça, voir comment ça marche, ça m'a toujours intéressé, la radio.
Mais dans la logique, c'est qu'on parle un peu de tout le monde, quoi. On parle pas que de nous, quoi.
Étant donné que nous, on est un réseau immobilier, c'est forcément plus en rapport avec ça. Donc savoir un petit peu ce qui se passe au niveau vraiment du marché, dans le sens où dans quelle région que ça bouge le plus, qu'est-ce qui est mis en œuvre pour que ça avance. Donc forcément, quel marché est le plus porteur, c'est plus ça quoi.
Donc les médias, vous en faites un usage exclusivement professionnel du coup.
En rapport, ouais.
Moi j'ai plus la pêche et la chasse.
Et les retransmissions de votre concert, ce serait bien. Style un festival comme il se fait à Évreux. S'il y avait moyen d'avoir quelques brides de ce festival, ce serait bien. Parce qu'on n'y va pas tout le temps, pas toujours possible. Puis à la radio, ça rend bien quand c'est bien.
Bah, j'essaierai de donner au moins du sourire aux gens, du bonheur.
Charbonné pour avoir des écoutes. Si l'instru me plaît, il faut que la découpe. Effilé comme le katana, je ne prie pas les satanas. Attention à toutes ces nanas, sont tranchées comme des ananas. Il faut que je trouve que j'en jette, qu'elle me trouve trop mignon. Ce soir c'est Masterchef, découpe le filet mignon. J'suis posé avec les straps, 9-7 de les pieds dans le sable. La découpe avec le sable, faut pas que j'la loupe, je reste sable. J'la laisserai pas filer. Posée sur la plage, pris dans le filet. Y'a trop de monde autour de moi, je ne la vois plus défiler. Elle pose son garçon, moi j'ai vu ma vie défiler. Qu'est-ce que je vais faire à présent? L'ambiance est beaucoup trop pesante, elle prend par le poignet. T'inquiète, je vais pas du tout tailler. Je vais t'accompagner, mais je vais pas tout détailler. Yeah, 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 elle fait ceci. Yeah, yeah. Yeah, yeah.
Vous venez d'écouter le titre Visite de Fredo, un des membres de l'équipe.
Vous écoutez Principe Actif, la radio d'Evreux, 102.4 FM.
Bonjour à tous, vous êtes en direct sur Principe Actif. Nous sommes en direct dans les studios de Breteuil, nous accueillons Simon et Nicolas. Bonjour à vous.
Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes des membres du club de combat sportif au sabre laser, nommé le cercle de Caybourg. J'ai bien prononcé ?
C'est ça, ouais, Caybourg.
C'est bien ça. Caybourg. D'accord. Pour la petite histoire, il y a quelques mois de ça, je me baladais, je traversais la place de Breteuil en pleine nuit. Et donc, au loin, j'ai aperçu quelques lumières, un feu de lumière, vraiment un spectacle de plusieurs coloris, rouge, jaune, bleu. Je me suis approché et voilà ce qui s'est passé dans ma tête pendant une demi-seconde. Je me suis dit, waouh, je suis en plein tournage du prochain Star Wars. C'était pendant une demi-seconde, je pensais vraiment à ça. Il y avait vraiment le bruitage des sabres, il y avait les couleurs, il y avait vraiment de la technique, de la rapidité. Et je me croyais pendant un combat de Jedi. Mais je suis vite redescendu sur Terre. J'ai regardé autour de moi et j'ai vu que Breteuil, c'était pas trop l'environnement approprié pour Star Wars.
Ouais, non, pas vraiment.
pour revenir un petit peu au nom de votre club, le Cercle de Caybourg, je voulais savoir d'où provient ce nom. Comment avez-vous trouvé ce nom-là?
Alors en fait, ce nom, il vient de certains livres Star Wars qu'on retrouve, qui n'ont pas été traduits d'ailleurs en français. Ça parle d'une pierre qui est capable de donner plus de pouvoir à son possesseur, en fait, dans la force, et donc de manipuler encore mieux un sabre laser, en fait. Donc comme on était sûr de l'escrime, on a gardé le côté cercle qu'on retrouve régulièrement en escrime, et puis on a utilisé Caybourg en plus. Voilà.
Ok, donc il faut savoir que du coup, les gens qui ne connaissent pas forcément les livres et les romans de Star Wars, l'histoire n'est pas basée que sur les films. Il y a vraiment une...
Il y a un univers étendu autour, effectivement. On retrouve beaucoup des comics, beaucoup de romans aussi.
D'accord.
Mais bon, c'est un petit peu changé depuis le rachat par Disney. Donc, c'est un petit peu remis au goût du jour en ce moment.
Ok, donc je comprends qu'il y a un peu de passion dans ce que vous dites pour Star Wars, pour l'univers Star Wars.
Bah, je pense qu'on est tous venus un petit peu pour ça au départ. Hein. C'est sûr qu'on a tous grandi avec ces films, avec les séries animées qu'il y a pu avoir. Donc oui, on a tous grandi vraiment avec ça. On l'assume entièrement. On est restés des grands enfants par rapport à ça, comme beaucoup, hein, et même des plus âgés que nous.
Je confirme. Ouais.
Et donc ce sport est réellement inspiré de l'univers aussi Star Wars, du coup.
Ouais. Il y a une bonne partie, ouais, inspirée quand même de l'univers Star Wars. Et, après, il y a quand même beaucoup de techniques en fait qui découlent quand même des arts martiaux connus aujourd'hui.
Okay.
Donc on fait un petit mélange de tout ça et en fait ça donne ça, quoi. Ça donne nos petits combats au sabre laser.
Original, plutôt original. Mm. Et vous connaissez un petit peu l'histoire de la naissance du combat au sabre laser? Sportif,
en tant que sport, ouais. En fait, c'est en 1997 que ça a été codifié pour la première fois aux États-Unis.
Mmh.
Donc, il y a plusieurs écoles qui se sont développées là-bas depuis. Puis après, ça s'est un petit peu étalé. On en a retrouvé un petit peu en Europe. Il y a l'Italie qui a été un des précurseurs chez nous en Europe. Les Anglais aussi. Et puis, c'est arrivé l'année dernière chez nous en France, un petit peu avant la sortie du dernier épisode. Au mois de septembre, sur Paris, il y a un club qui a ouvert, qui s'est retrouvé avec 250 adhérents en une semaine. Donc, c'était plutôt pas mal.
C'est un sport du coup qui commence à être reconnu, malgré qu'il ait été créé il y a pas mal de temps déjà. Mmh. Et je pense qu'on entend de plus en plus parler.
Bah, je pense que l'arrivée de la nouvelle saga a déjà réveillé certaines passions chez un petit peu tout le monde, hein, nous les premiers d'ailleurs.
Mmh.
Et puis c'est des choses qu'on retrouve un petit peu partout en France en ce moment. Il y a des clubs qui fleurissent à droite à gauche. Et voilà, c'est le tour de Breteuil.
Et justement, j'aimerais savoir, vous, votre propre histoire. Comment avez-vous découvert ce sport-là et pourquoi vous pratiquez aujourd'hui et enseignez ce sport
Nous, on l'a découvert en fait à la télévision, hein, sur des reportages. Une mission le dimanche soir qui passe sur l'actualité en général. Et puis, on avait trouvé ça super sympa. On a dit, c'est génial. Et puis, on en a reparlé plusieurs fois. Et puis, on s'est dit, bon, bah, très clairement, si on doit attendre que ça vient jusqu'à nous, on risque d'attendre très longtemps. Donc, on a dit, on va essayer de se former. On a été sur Paris pour se former sur une école. On a envoyé une personne faire des cours d'instructeur aussi. On a échangé avec d'autres clubs aussi. C'était très, très sympa. Parce qu'il y a des gens qui viennent d'un petit peu tous les horizons dans ce sport-là. On a des gens qui viennent du kendo, on a des gens qui viennent de la canne française, des gens qui viennent du kung-fu. On a vraiment un petit peu de tout et c'est super intéressant. Il y a des bons échanges qui sont faits entre les clubs et c'est super intéressant.
On peut dire que c'est un art moderne. C'est une évolution de l'art martial en quelque sorte. C'est inspiré d'un art comme un peu le kendo,
plusieurs.
Je pense.
C'est un mélange. En fait, c'est un mélange d'un petit peu tous ces arts martiaux, la canne française, le kendo, un peu d'escrime médiévale aussi. Mmh. C'est un gros mélange que tout le monde a amené un petit peu de ce qu'il connaissait. Et c'est comme ça que ça a pu être codifié. Et du coup, c'est ce qui rend aussi la chose un peu ludique, c'est qu'on n'est pas cantonné à des règles classiques des sports de combat qu'on connaît, mais à des nouvelles règles qui sont bien plus étendues et bien plus fun, quoi.
Une petite question, je voulais savoir si, comme dans les arts martiaux, il y a des grands maîtres qui existent dans l'art du combat sportif au sabre laser, si c'est à niveau international ou c'est juste national.
Non, pour l'instant, en tout cas, on n'est pas concerné. Il y a l'école italienne en particulier, qui s'appelle Ludo Sport, qui est déjà pas mal à l'international, où ils font des compétitions internationales. Non, pour l'instant, nous, on a eu le premier championnat de France national, qui a eu lieu en début d'année. Mais bon, encore, c'est tout neuf. Hein. Ça n'a même pas encore un an comme sport chez nous. Donc, c'est encore en plein développement. Il y a des choses qui vont changer. Il y a des nouveaux acteurs tous les jours qui arrivent dans ce sport. Et on compte bien aider à faire développer ce sport et à le faire connaître aussi.
Ouais.
Ok. Et donc, au niveau, en France, au niveau national, y a-t-il une fédération qui a été mise en place ?
Oui et non. En fait, il y a le premier club parisien qui essaye de chapeauter un petit peu tout en ce moment. Ils font de leur mieux. C'est pas évident. Il faut jouer avec la sensibilité de chacun. Et puis une fédération, ça implique des grosses responsabilités aussi vis-à-vis de ses adhérents. Donc c'est des choses qui se mettent en place. C'est pas encore entièrement fini, on va dire. C'est pas terminé, mais c'est en bonne voie. C'est en bonne voie.
Ok. Et pour rappeler aux auditeurs, vous avez mis en place un club sur Breteuil.
Oui.
D'accord, donc c'est la première, c'est le premier club sur le territoire normand en fait.
C'est ça.
Oui, devant les grandes villes, on n'en est pas peu fiers. Parce que...
c'est ce que je voulais rebondir là-dessus justement. J'ai fait quelques recherches moi-même et je me suis aperçu que c'était vraiment des grosses villes où il y avait des clubs de combat au sportif au sabre laser. Et Breteuil, j'étais vraiment surpris. Pourquoi vouloir créer un club à Breteuil ?
Bah parce qu'on y vit déjà, on est autour, on est dans le bassin autour de Verneuil, Breteuil, on est vraiment dans ce coin-là et bah pour nous c'était plus logique déjà de le faire autour de chez nous et puis pour une fois c'est un petit peu la revanche du côté rural sur les grandes villes. Donc non, on est très très fiers de le faire ici. Après s'il y a des grandes villes qui veulent se développer, qui veulent ouvrir des clubs, on sera très content de pouvoir les aider à le faire aussi.
Et pour revenir aux compétitions, vous avez parlé tout à l'heure qu'il y avait le championnat de France il y a peu de temps qui s'est organisé, c'est
oui,
ça ?
Oui, il y avait très peu de clubs, puisque en fait, il fallait suivre une formation spécifique et on n'avait pas assez d'ancienneté encore pour pouvoir y participer.
D'accord.
Mais on y compte bien y être dès l'année prochaine.
Ah, nous, on est encore des bébés. Hein.
J'imagine, mais l'évolution se fait très rapidement aussi.
Oui.
Et je voulais savoir, au niveau des compétitions, les règles de combat. Est-ce que vous pouvez me donner quelques petites règles pour que les auditeurs puissent savoir un petit peu comment se passe un combat ?
Donc après ça dépend pour l'instant ça dépend des clubs. Il y a des clubs qui pratiquent pas tous de la même manière, mais dans l'ensemble vous avez un temps qui est compris entre 2-3 minutes, une surface de combat qui est en moyenne de 8 mètres dans laquelle il faut pas sortir. Ensuite vous avez des systèmes de touches, donc selon la zone où on touche vous avez un nombre de points associés et à partir d'un certain nombre de points le combat est terminé, ou alors si vous arrivez à la fin du temps celui qui a marqué le plus de points a gagné le combat.
Remporte le match.
Super. Vous avez déjà participé à des compétitions vous-même ou pas?
Non, pas encore.
Pas encore.
Non, on a travaillé avec d'autres clubs, donc on a fait des combats avec eux, mais pour l'instant rien de vraiment officiel.
C'est en projet.
Ouais.
Bien sûr.
Pour l'avenir, ouais, carrément.
Ok. Maintenant parlons de matériel. Je vois que vous avez ramené vos sabres laser.
Ouais.
Il y a possibilité que je puisse en prendre un dans les mains pour que je puisse communiquer mes impressions aux auditeurs. Ouais, donc c'est assez lourd. Hein,
ouais,
quand
c'est
même.
Assez lourd. Ouais.
Le manche est assez lourd.
Ouais.
Et je pense qu'il faut que ça soit aussi. Faut que ça soit costaud, je pense.
Ouais. Bon, les lames. Les lames, elles sont en polycarbonate, en fait. C'est du plastique très dur. Et, on va dire, ça casse pas.
C'est quasiment destructible.
Mmh. D'accord. Il y a possibilité d'appuyer sur le bouton.
Ouais.
C'est fait pour.
Ouais, bien sûr.
Super. On a le super. On a le bruit.
Ah.
Ok. Donc le sabre est bleu, hein. Il y a possibilité de le personnaliser.
Bien sûr.
Après, ouais, on peut mettre différentes couleurs, on peut mettre différents. Il y a des cartes son à l'intérieur, en fait, pour. C'est pareil, celui-là, il claque quand on claque les lames.
Il y a l'impact.
Voilà.
Super.
Il y a plusieurs options en fait sur les sabres
il y en a pour tous les prix.
En mode full option, ça coûte un peu une blinde quoi. Mais,
Et j'avais une petite question assez fun du coup. Il y a possibilité de aussi personnaliser la forme du sabre ou rajouter des accessoires en plus dessus.
Alors pour les sabres en fait, les manches en fait, il y en a plusieurs différents.
Ouais.
De tailles différentes et de formes différentes. Après c'est au choix de chacun.
Il y a plein de constructeurs.
Il y a plein de constructeurs. Ouais.
Okay. Le matériel de base qu'on a, il vient des États-Unis parce qu'au départ, on n'avait pas trouvé en France. Et on a la chance aussi pour notre club, la semaine prochaine, on sera livré de notre première collection de sabres, on va dire. On en aura 10 et elle sera distribuée par un fournisseur 100% français.
100% français.
Et on en est content aussi parce que c'est vrai que c'était important pour nous de pouvoir faire travailler des gens. Bon, ils ne sont pas de Normandie. On a essayé.
C'est un français, c'est
mais, ouais, mais on a réussi à trouver en région parisienne un fabricant. On a travaillé avec eux, on a aidé à développer et c'était une belle expérience aussi.
Ouais, puis ce qui est intéressant, c'est que voilà, c'est vraiment du sabre made in France complet quoi.
Ok.
C'est super important quoi.
Très intéressant. Il faut savoir aussi en plus de ça, il y a d'autres équipements, donc des gants, des casques pour les protections. Donc je pense que c'est important. L'impact doit être aussi.
Ouais, ça fait un peu mal quand on n'a pas d'équipement, quoi, on va dire.
Après, on travaille sur de la touche. Justement, la maîtrise, c'est quelque chose d'important, comme dans tous les arts martiaux. Et on n'est pas là pour se faire du mal. On est là pour s'amuser avant tout. C'est pour ça qu'on a du bon matériel pour se protéger. Mais ça fait pas tout. Il faut aussi que les gens soient responsables derrière. Et on leur apprend aussi. Ça fait partie de
notre boulot. Beaucoup de maîtrise, qu'on va dire.
Je comprends bien. Et je voulais savoir, votre club, quand est-ce qu'il ouvre ses portes?
Alors, nous, en fait, on prépare encore notre programme pédagogique. Cet été, normalement, on prévoit de faire certains stages pour faire découvrir aux gens notre sport. Mais on sera ouvert vraiment, à partir du début septembre, donc sur le dojo de Breteuil.
Ok. Où est-ce qu'on peut suivre votre actualité?
Alors, sur notre actualité, on a surtout une page Facebook, hein, donc c'est le Cercle de Caillebure. Ça s'écrit K-A-I-B-U-R-R. Donc sur Facebook, c'est là qu'on est le plus actif. Après, sinon, on a une adresse email aussi, on a un numéro de téléphone. Il y a tout sur la page Facebook. De toute façon, vous pouvez tout retrouver là-bas.
Eh bien, écoutez, je vous remercie. Nous venons d'écouter Simon et Nicolas. Ils nous ont fait découvrir leur pratique du combat sportif au sabre laser. Je vous en remercie.
Eh ben, merci à vous.
Et puis à bientôt.
Eh ben, y a pas de souci.
Merci. By my side, I'm full of those ships of being down high of what we call love. No, no, just a temper I got, a little temper I got. Pass the doors and trying to find out if she's a redhead girl. We see her eyes, I see you in the dark, walking down the street. Here comes a star, crashing on the roof. Sweet taste, funny situation. I don't believe in captions. Time break, it's a question of ocean for a red reflection. Come here, wish I could tell you, my dear. Get over my fears. Hey you, here's the shadow of the step. Do you read me? I see you in the dark, walking down the street. Here comes a storm, crashing on the roof. I see you in the dark, walking down the street. Here comes a storm, crashing on the roof.
Slaughterhouse Brothers, see you in the dark.
Principe actif, c'est actif par principe.
Bonjour. Alors, qu'est-ce que je vous sers, les loulous? Café, oui. Bouteille d'eau.
Café.
Un
allongé pour moi.
Rondelle ou citron?
Non, citron.
Si vous vous présentiez, comment vous le feriez et qu'est-ce que vous diriez aussi de ce que vous aimez le plus?
Je suis toute simple, j'aime pas les chichis. Voilà, j'aime être naturelle. J'aime pas être le style Marie Prout-Prout parce que ça me gêne. Voilà. Moi, je suis, comme dirait l'autre, brute de décoffrage. C'est tout. Quand j'ai quelque chose à dire, je le dis. Mais voilà, je suis comme ça.
Ah, en savoir un peu plus sur votre brasserie qui s'appelle La Terrasse. Pourquoi ouais. s'appelle-t-elle La Terrasse?
Alors, ça, ne me demandez pas, je ne le sais pas.
D'accord.
Ça s'appelle La Terrasse parce qu'on a une grande terrasse, je pense.
D'accord.
Voilà.
Alors, qu'est-ce qu'on avait envie de savoir d'autre? C'est bien sûr, hier, on a vu qu'il y avait beaucoup de monde. Combien de repas vous servez?
Ça dépend des jours.
Ça dépend bien sûr.
Ça dépend des jours. Ça dépend des jours. J'ai souvent des habitués.
En général, qui sont-ils?
C'est des gens, j'ai des ouvriers qui ont l'habitude de venir tous les jours. J'ai des petits jeunes là, qui viennent régulièrement, tous les jours pratiquement. Voilà, c'est une bonne clientèle. On aime notre clientèle. Mmh. Voilà. Le mercredi matin, on a notre jeune âge, c'est-à-dire entre 70 et 85 ans. Voilà, et avec eux, on adore être avec eux parce que si tous les jeunes étaient aussi énergiques qu'eux, je peux vous dire que la vie serait super belle. Voilà. Parce qu'ils sont pleins de vie, parce que voilà. Ils apprécient les gens, voilà. Et puis des petits jeunes comme eux, c'est pareil. Ils sont polis, on est content de les voir, voilà.
Alors justement, on se disait que sans doute vous aviez des anecdotes à nous raconter.
Oui, alors je vais vous en raconter une, parce qu'hier vous êtes venu manger.
Oui.
Il y a eu des steaks à cheval de fée.
Oui.
Je travaille avec des fois 2-3 poils.
Oui.
Et aujourd'hui, c'est les petites. Et aujourd'hui, j'ai voulu travailler avec deux et j'en ai perdu une hier. Alors peut-être que en débarrassant votre table, la poêle s'est trouvée entre des assiettes et elle est partie à la poubelle. Voilà. Alors j'ai des clients qui ont mangé à la carte qui étaient là hier et qui rigolaient comme des. Voilà, parce qu'ils se sont dit, ils m'ont dit, si tu perds la mémoire pour une poêle, fais attention, tu vas nous mettre une choucroute pour un steak frites. Hein. Donc voilà quoi. Mais c'est des petites anecdotes. C'est des petits trucs sympas. Voilà. Mais bon, on est content d'être là et on est content de notre clientèle. Moi, j'apprécie ma clientèle. C'est beaucoup ça, surtout. Ma clientèle. Voilà. C'est pas spécialement Breteuil, c'est ma clientèle. Voilà. Parce qu'ils sont tous sympas.
On sent que vous avez envie de mettre une ambiance. Comment vous la caractérisez, cette ambiance que
j'ai été bercée dans les bars. Mes parents ont toujours tenu bar, brasserie, restaurant, voilà. Et après j'ai travaillé, je me suis mariée, mais j'ai travaillé aussi pour la DAS. J'avais des enfants au domicile, 24h/24, donc il fallait bien les occuper, il fallait bien les faire rire, et puis parce que c'est des enfants qui souffrent, donc il faut toujours chercher à les faire rire. Donc voilà. Puis j'ai un mari qui a fait partie du comité des fêtes où on était avant, donc... il fallait avoir le sourire. Voilà, c'est tout. Et moi, j'ai toujours aimé rigoler. Donc, voilà. Je sais pas ce que c'est. Même si j'ai des gros soucis, quand je passe ma porte ici, je dis, je dois les oublier. Voilà, c'est tout. C'est ce qui fait peut-être ma force. C'est tout. Mais on est content. Voilà. Mais bon, c'est comme ça. C'est notre vie. C'est notre vie, voilà. Entre nos clients, nos enfants, c'est le plus beau cadeau de la vie. Voilà. Monsieur, café ? Et ouais, c'est comme ça. On apprécie tout ça. Donc voilà. Quand on a des clients sympas comme vous, ça a l'air de servir. Vous connaissez ? Quand vous tombez des fois sur des chiens, c'est pas marrant.
Oui.
Mais des gens sympas, c'est agréable. Allô ? Oui.
Et avec votre mari, comment ça se passe la collaboration
Alors nous, ça fait 12 ans qu'on travaille ensemble, mais avant, je travaillais pour la DAS, donc j'étais toujours... Enfin, j'ai été 6 ans, 7 ans pour la DAS, donc quand il rentrait, j'étais là. Et puis là, ça fait 12 ans qu'on est là ensemble, et ça va faire 40 ans qu'on est mariés. Alors si il n'y avait rien, je pense qu'il y a longtemps, on se serait jeté les casseroles dans le nez. Hein, c'est tout. Mais non, ça fait 40 ans, puis tout va.
Hier, on vous a vu au fourneau. Est-ce que ça veut dire que c'est là habituellement dans la cuisine que vous pratiquez ?
Comme dirait mon mari, elle est à son poste de travail. Là. Voilà. Salut mon fifi. Elle est à son poste de travail. Quand les clients me cherchent, on va voir, elle est à son poste de travail. Voilà. Mais c'est tout. J'aime être dans ma cuisine, mais j'aime être au bar. Voilà, je fais les deux.
Et pour les clients, quels sont les plats que vous aimez particulièrement proposer ?
L'hiver, on leur fait des plats en sauce. L'été, des fois, comme là ce midi, il y a un monsieur qui avait envie de faire qui avait envie de manger du riz. J'en avais, je lui fais du riz. Je lui dis, je prends 10 minutes et je vous fais du riz. Voilà. J'essaye toujours de leur faire plaisir. Vous voyez là, les 7 personnes qui viennent vendredi,
C'est parce qu'ils sont venus là et comme ils passent une fois l'année, ils ont dit on retourne manger chez Chanchon. J'ai des associations, les vieux boulons, tout ça, voilà, qui viennent régulier. Là, je les ai le 26, le dimanche midi, le 26, voilà. Donc, et j'ai eu quand même une photo dédicacée parce que bon, je vais la faire en voyage. Voilà, le champion du monde de karaté qui est venu manger chez moi pour une petite brasserie comme moi. Je l'ai quand même eu comme client avec sa femme. Voilà, hein, c'est beau quand même, hein, c'est vraiment Sandrine. Bah oui, hein. Vous voyez, pourquoi tu viens toujours ici?
Parce que c'est une ambiance.
Voilà. Voilà. C'est tout. C'est tout. Le club de karaté vient régulièrement et on a eu la présidente ce matin et elle m'a fait venir au champion du monde. Ils ont mangé ici. Et à chaque fois qu'elle les voit, ils disent dis bonjour à Chanchon et Mémé. Voilà. Je suis devenue leur copine. Je suis leur maman en fait. Je suis un peu tout. Je suis un peu tout. Moi, c'est ma deuxième fille celle-là parce que bon. Voilà. Quand elle a ma fille au téléphone, elle dit bonjour ma soeur. Sans penseur, mais c'est pas grave. C'est le plaisir d'être en famille, c'est tout. Voilà.
On sent effectivement que vous créez une belle ambiance.
Moi, je pense, hein. Je pense.
Sinon, on ne viendrait pas.
Voilà. Voilà. Avec mes papis et mamie du mercredi, c'est pareil. J'ai le même comportement. C'est mes copains. C'est. Voilà. Et je pense qu'il faut être comme ça quand on a un commerce comme ça. Surtout avec la concurrence qu'il y a sur Breteuil. Hein. Si on n'était pas aimable, je peux vous dire que ça irait pas. Mais c'est notre travail. Voilà. Hein, c'est comme ça. On aime notre boulot ou on l'aime pas, c'est tout. Nous, on l'aime. Il y a des hauts, il y a des bas, mais on l'aime. Voilà. Et on aimerait bien qu'il y ait plus de monde sur Breteuil, parce que, à la limite, les commerçants ne sont pas des averbes, quand même. Voilà. Ça nous ferait un peu de publicité. Voilà. Hein. Moi, j'ai des clients qui me font de la pub sur Internet, mais les gens, il faudrait qu'ils arrivent à venir. C'est ça le problème. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire sur moi. Voilà.
Nous vous remercions vraiment. Nous étions en train de parler avec Chantal. Michel n'était pas là.
Non, il a promené son chien au parc. Voilà, après le service, il promène Pépère. Voilà.
Et vous êtes situé sur la place de Breteuil. Et on a eu grand plaisir de revenir aujourd'hui après ce bon repas partagé hier.
Vraiment. C'est gentil. Moi, c'est mon plaisir de vous entendre dire on était contents. C'est tout ce qui compte pour moi. Voilà. C'est pas. Il n'y a pas autre chose.
Dans ma tête, je suis tatoué, je vais m'évader. Et couler, rien n'est retardé. Comme en prison, break, ça va pas tarder.
Pas tarder.
Reste pas dans ta cellule, placardée. Oh. Attendez, en pleine réflexion pour la mission. Oh. Il est déjà question de l'admission. Oh. Derrière les fenêtres de ta prison, faut faire bel écart à la trahison. Oh. Décider à prendre la bonne décision. Nous évader en mode dérision. Le mot d'aujourd'hui, c'est la discrétion. Je fais une digression.
Yeah, yeah.
Cite mon plan comme une incantation. Coincé sur l'île de la tentation. Est-ce que je vais réussir mon évasion? Attention, je suis en cavale, il faut cavaler. C'est la cheval sans cavalier. C'est pas tes mensonges que t'as avalé. Je garde les clés si t'as parlé. Change de trottoir et de palier. T'as dû le voir, on n'est pas alliés. Je suis déjà au dernier palier, on n'est pas liés. Je cite mon son comme une incantation.
Alors c'était Fredo, FRA2IDOW avec Évasion.
Et quand tu sais qu'un battement d'aile de papillon peut être la cause d'un ouragan à l'autre bout de la planète, scientifiquement prouvé, et dans la vraie vie, approuvé par tous, l'effet papillon ça existe. Tu changes un détail de ce qui se passe, ça a des répercussions sur beaucoup de choses.
Principe actif.
Nous allons maintenant accueillir le photographe Nicolas Auriard, de Mer. Bonjour Nicolas.
Vous êtes un photographe spécialisé dans la photographie animalière et de paysage. Vous avez d'ailleurs remporté un prix en tant que photographe de l'année dans ces deux catégories. Vous êtes originaire de Verneuil-sur-Avre où vous présentiez une exposition nommée Verticality au silo du 6 au 17 juin. Ça s'est bien passé ?
Très bien passé, ouais. On a eu du monde, les gens étaient intéressés, et puis c'est toujours un plaisir d'exposer au silo en plus.
D'accord, bonjour.
Bonjour. Alors,
première petite question pour vous découvrir un petit peu. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie de faire de la photo ?
La photo, j'ai commencé il y a un moment quand même. Au début, je faisais un peu tout dans la photo. J'étais pas spécialisé dans la nature comme maintenant. Et puis, j'ai voyagé pas mal à travers le monde. Et puis, je pense que c'est venu. Je pense que c'est venu à ce moment-là quand j'ai découvert que faire des photos, ça intéressait les gens et que je pouvais faire partager à beaucoup de gens ce que je voyais.
Et justement, nous aimerions savoir quelles sont vos sources d'inspiration pour toutes ces photographies.
Les sources d'inspiration, alors je suis pas bien sûr d'en avoir en tout cas de normal. Il y a beaucoup de gens qui s'inspirent de grands photographes, etc. Je suis pas sûr que je suis dans cette mouvance. Je pense que je ressens plutôt ce que je photographie en direct. Je vais aller chercher directement dans la nature ce que je recherche et puis voir en direct ce qui peut m'intéresser et intéresser les gens aussi à travers les voyages ou la nature en direct, c'est-à-dire les animaux et leur comportement par exemple.
Vous nous parlez de justement vos voyages que vous avez effectués pour cette exposition, mais comment vous choisissez les pays où vous prenez les photos ?
Alors, c'est un peu le hasard, à savoir que je suis quand même assez spécialisé sur les pays qu'on appelle nordiques, donc tout ce qui est Norvège, Écosse, Islande, et puis le pendant un peu de l'hémisphère sud avec la Nouvelle-Zélande. Je m'intéresse à d'autres pays, mais c'est vrai que je suis surtout concentré sur ces pays qui ont une lumière particulière et qui permettent de faire des photos qui me plaisent déjà, et puis qui sont vraiment dans ce que je recherche en termes de lumière. Après, récemment, j'ai fait le Kenya, qui est complètement différent, et où du coup, là, on recherche autre chose.
Et donc, pour revenir à votre exposition Verticality, on peut penser que le nom de l'exposition est dû au format que vous avez choisi, donc c'est-à-dire d'exposer les photos en format portrait. Vous pouvez nous en dire. Vous pouvez nous en dire plus. Comment vous avez eu l'idée de choisir ce format ?
En fait, ce format, naturellement, très rapidement, j'ai fait beaucoup de photos dans le format vertical en paysage, ce qui n'était pas forcément ce que tous les autres photographes faisaient à l'époque pour ça. Maintenant, on en voit plus, mais c'est pas forcément dû à moi d'ailleurs, c'est peut-être dû à une mode aussi. Et puis, j'avais envie de montrer aussi un peu que au-delà des formats qu'on connaît, parce que quand on va au cinéma, quand on regarde la télé, même quand on regarde les journaux ou Internet, on n'a qu'un format horizontal. Et le format vertical, mis à part en portrait, est quand même peu utilisé finalement. Donc je voulais l'utiliser en nature et montrer aux gens qu'on peut voir un peu autre chose que ce que tout le monde voit d'habitude.
On a pu voir aussi que dans cette exposition, il y a une autre spécificité qui la rend assez particulière, c'est le fait d'avoir intégré du contenu multimédia dans cette exposition. On a d'ailleurs discuté avec Thomas, avec qui vous avez travaillé sur cette exposition, qui est animateur multimédia au silo. On va maintenant écouter ce qu'il peut dire sur le sujet.
Bonjour, nous sommes avec Thomas, animateur multimédia du silo, la MJC de Verneuil-sur-Avre, où a été exposée Verticality, les photographies de Nicolas Auréard-Demer du 6 au 17 juin.
Alors bonjour Thomas.
Bonjour.
Alors comment s'est décidé le fait d'introduire des fichiers multimédia dans l'exposition ?
Eh bien, on discutait avec Nicolas des technologies des photosphères qu'on commence à trouver de plus en plus sur Internet et qui sont un pas vers les technologies de réalité virtuelle dont on entend beaucoup parler en ce moment. Et on se demandait si ce serait pas un moyen d'impliquer un peu plus le spectateur dans le travail du photographe à l'occasion d'une exposition. Alors, on s'est dit qu'on allait mener l'expérience et introduire ces photosphères ainsi que d'autres contenus multimédia qui sont venus par la suite dans une exposition pour les livrer aux visiteurs, avec l'ambition de leur permettre d'aller un peu de l'autre côté du miroir, de découvrir un peu plus du travail du photographe, où il était, dans quel contexte, avec qui il a travaillé, toutes ces petites choses qui permettent de mieux comprendre le travail fourni, le sens de l'image aussi. Et voilà, l'expérience est là, c'était essayer d'aller de l'autre côté du miroir. En bon fan d'Alice au Pays des Merveilles, j'aime beaucoup cette thématique.
Et quels sont justement tous les types de contenus qu'on a pu trouver pendant cette exposition ?
Alors avec Nicolas, on a retenu d'abord des travaux en photosphère, donc des photos qui sont réalisées avec un smartphone ou un appareil photo plus classique, dans des formats panoramiques et qui sont appliqués à une sphère virtuelle, qui permettent aux spectateurs, avec un smartphone ou une tablette, de visionner l'image au sein d'une sphère, comme s'il était dans un support de réalité virtuelle, mais de façon plus simple, sans lunettes, simplement avec l'écran. On utilise le gyroscope intégré à ces équipements-là, qui permettent de se déplacer dans l'espace et de voir l'image défiler à l'écran en fonction de nos déplacements. Ce qui donne une immersion qu'on n'a pas forcément en voyant la photo, et qui permet de voir un peu plus du contexte de la photo, c'est-à-dire aller au-delà du cadrage proposé par Nicolas et de voir le contexte de l'image. Sachant que cette expo-là est une recherche sur le format, justement, la photosphère était l'expérience idéale.
D'accord. Et c'était une première pour vous, ce genre d'exposition qui mêle la photo et les multimédias ?
Ouais, absolument. On trouve régulièrement dans des expositions des documentaires, des écrans, des compléments. Mais on n'avait pas envie du tout d'insérer des écrans dans une expo photo. On voulait que ça reste quelque chose de contemplatif. On voulait laisser les spectateurs apprécier une bonne expo et proposer quelque chose qui soit optionnel et qui soit facile d'accès. Alors pour ça, on a choisi la technologie du flash code, donc ces chaînes de caractères qui sont encryptées dans une image et qu'on peut scanner avec une application gratuite qu'on trouve sur tous les stores Apple, Android et autres, et qui permettent d'accéder à tout ça via une étiquette, en fait, simplement collée au bas de l'image, qui est une légende qui inclut le titre, l'endroit où a été faite la prise de vue et le QR code qui correspond à un lien internet qu'on peut consulter simplement avec son téléphone.
Très bien, merci Thomas.
Ben, merci beaucoup Thomas pour ces précisions.
Un plaisir.
Et nous rappelons que vous avez travaillé avec Nicolas pour son exposition Verticality. Merci beaucoup.
Donc voilà, c'était Thomas du Silo de Verneuil qui, on rappelle, a travaillé avec vous sur l'exposition Verticality. Alors, on voulait demander, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter ou
des commentaires.
Des commentaires, voilà.
Je pense que Thomas a pas mal résumé toute la partie nouvelle. C'est effectivement... C'est très à la mode en ce moment, on y vient, on a réussi à intégrer tout ça et c'est vraiment un bel effort de Thomas de m'avoir aidé dans cette direction. J'espère qu'on continuera et je pense que ça deviendra une norme dans les expositions d'avoir de plus en plus de contenu multimédia dans ce sens, peut-être pas forcément que de la vidéo ou des choses comme ça, mais on va aller dans ce sens-là. Moi, je vais le développer de plus en plus. C'est ma prochaine expo, Laura, évidemment. En attendant, je pense qu'on a assez bien résumé la chose. Voilà.
Oui, puis en plus, dans votre exposition, sur les flashcodes, on a pu regarder aussi qu'il n'y avait pas que de la vidéo. Il y avait des fois des images avec de la musique en fond. Et puis, il y avait aussi un système de pouvoir vivre le moment, c'est-à-dire... vous avez pris des photos en 360 degrés.
Oui, tout à fait.
Et puis, ce qui nous permettait de voir les décors aux alentours, quoi. Donc,
Il y a les photos, il y a des vidéos, il y a de la musique. C'est vrai qu'on essaye d'intégrer quand même le spectateur dans une vision contemplative, mais participative. Donc, voilà, c'est tout le principe du truc. Ouais.
On voulait savoir justement si vous avez d'autres projets en tête que vous n'avez pas encore réalisés, justement avec la technologie ou d'autres formats, d'autres pays que vous aimeriez visiter.
Alors, pour les projets en termes de technologie, etc., bah là, je suis en train de créer de l'image pour des expositions à venir. Le plus dur étant, quand on part d'une base comme ça, de créer une nouvelle base d'images, à savoir des vidéos, pour que ça corresponde aux images soit existantes, soit que je vais faire, et puis de les appliquer lors de mes futures expos. Après en projet, je suis en train de travailler sur mon livre, donc ça va sortir plus ou moins sur le dernier tiers de l'année. Et puis des pays à venir, oui très probablement, je vais retourner en Islande cette année. Je vais sûrement aller faire un tour dans la zone pacifique. Et puis après, ça dépend et des demandes et puis aussi des envies de photos parfois. Ouais.
Bah, couvrez-vous bien en Islande parce qu'on sait qu'il fait très froid. Et donc on voulait vous remercier, Nicolas Aurière de Mer, d'avoir répondu à nos questions par téléphone. Nous rappelons que vous êtes photographe, portrait et paysagiste, et pour ceux qui n'ont pas pu voir à l'exposition, nous les invitons à voir votre travail sur votre site internet NOD Photographie, donc photographie avec un Y à la fin.
Oui, tout à fait, ouais. Merci à vous en tout cas.
Mais merci à vous aussi.
Merci beaucoup, répondu. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
D'entendre First Tone avec un titre au goût du jour, Envie de soleil.
J'ai l'intention de tenir l'antenne 24h sur 24 jusqu'à ma mort. Et puis même encore après s'il le faut.
Mais tu crois pas que ça pourrait peut-être finir par être légèrement monotone comme expérience pour l'auditeur ?
Principe actif, 102.4 FM.
Ma sœur, la pluie, la belle et tiède pluie d'été, doucement vole, doucement fuit à travers les airs mouillés. Tout son collier de blanches perles dans le ciel bleu s'est délié. Chantez les merles, dansez les pies. Parmi les branches qu'elle plie, dansez les fleurs, chantez les nids. Tout ce qui vient du ciel est béni. De ma bouche, elle approche ses lèvres humides de fraises des bois, rit et me touche partout à la fois de ses milliers de petits doigts. Sur des tapis de fleurs sonores, de l'aurore jusqu'au soir et du soir jusqu'à l'aurore, elle pleut et pleut encore autant qu'elle peut pleuvoir. Puis vient le soleil qui essuie de ses cheveux d'or les pieds de la pluie. Charles van den Berghe, poète et écrivain belge. C'était dans la chanson d'Ève, 1904, Mercure de France.
Vous écoutez Principe Actif, la radio d'Evreux, 102.4 FM.
Alors nous sommes en compagnie de Gaëlle Cavé, artiste dessinatrice en manga, et de Maëlys Tremblay. Bonjour.
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 Donc Gaëlle Cavé, pour commencer, comment est venue cette passion du dessin ?
Alors ça a commencé très tardivement chez moi, en fait, vers l'âge de... Enfin juste après mon bac, en fait, j'ai décidé de devenir architecte d'intérieur. Et pour ce, j'ai dû faire une école, une MANA en fait, où j'ai fait pendant 2 ans du dessin, l'histoire de l'art, peinture, graphisme, etc. Et donc du coup, là je me suis vraiment découverte une véritable passion qui m'a suivie tout au long de ma vie.
Voilà. Et vous éprouvez un plaisir différent quand vous dessinez le manga par rapport à un autre style ?
Alors tout à fait, parce qu'effectivement on est dans une technique un peu différente, où on est, je dirais, plus dans la gestuelle, avec des choses un peu simplifiées, un travail qui peut aller très vite avec des résultats assez efficaces, assez rapidement par rapport à d'autres dessins qui demandent peut-être plus... Un travail plus précis sur certaines choses, sur les dégradés, etc. Donc là, il y a une forme de simplification et en même temps une grande difficulté dans la maîtrise du geste. Donc on est... dire que c'est plus facile ou plus difficile, non. Mais par contre, parler d'une vraie différence, oui. Ça, c'est effectivement... Il y a des vraies différences entre un dessin classique, de reproduction classique ou d'illustration, et le type de dessin manga très particulier.
Mm-hmm. Donc, vous prenez plus de plaisir à dessiner les mangas ?
Oh non, pas du tout.
Donc c'est juste différent.
C'est pas très très différent. Tout à fait. C'est comme ce sont deux formes d'art différentes et vraiment je m'amuse autant avec les unes que les autres.
Et donc pour le dessin, y a-t-il un manga particulier que vous avez qui vous a marqué ?
Alors enfin, j'ai été extrêmement marquée parce que par contre je suis autodidacte en ce qui concerne le manga et j'ai été extrêmement touchée par le travail de Kaoru Mori. D'ailleurs sur YouTube vous pourrez si vous le désirez aller voir son travail, c'est absolument extraordinaire. Moi j'ai été très très émue de l'avoir travaillé et de voir la maîtrise qu'elle a de son art. C'est vraiment une grande artiste que je vous conseille d'aller voir.
Merci.
Le manga que donc vous parlez, c'est Bridge Stories.
C'est Bright Stories, oui.
Et qu'est-ce qui vous a touché dans ce manga ? C'est le dessin ou c'est l'histoire ?
Alors, il faut savoir que en fait, je lis pratiquement pas les histoires. C'est honteux. En fait, je passe essentiellement mon temps à regarder les graphismes. C'est vraiment ce qui m'intéresse le plus. Alors, à savoir que c'est une très belle histoire tout de même. Je ne l'ai pas lue en entier, Bright Story. Puis, de toute façon, je crois qu'elle n'est pas terminée. Mais c'est effectivement, on m'a dit que c'était une très très belle. Mais ça, Maëlys Tremblay vous en parlera mieux que moi, parce que je crois qu'elle l'a lue en entier. Voilà. Et sinon, je vous conseille aussi les dessins de Yana Tubutsu, de le Black Butler, qui est vraiment pareil, une aussi dessinatrice, une très grande dessinatrice de manga.
On voit que les dessins sont très détaillée.
Ah oui, oui. Et puis alors là, elle a sa grande spécificité, c'est les mains. Elle fait des mains absolument extraordinaires, d'une grande finesse, des expressions magnifiques. On est dans du grand art.
Pourquoi c'est assez difficile de dessiner les mains dans le manga?
Ouais.
Dans tous les dessins, quels qu'ils soient, de toute façon, les mains, ça reste vraiment d'une grande complexité. Après, il faut avoir une vraie maîtrise. Et très peu de dessinateurs manga l'ont, cette maîtrise des mains. Et de... Les mains, c'est très compliqué.
Et les pieds aussi.
Et les pieds, oui, tout à fait. On est dans les mêmes difficultés. Ouais. Ouais. Mais c'est vrai qu'on les voit moins, les pieds.
Oui.
C'est moins embêtant, du coup, de moins les maîtriser.
Donc, vous dites que vous êtes autodidacte, donc vous vous êtes aidé de magazines, de dessins animés ou...
Non, essentiellement de YouTube, en fait. J'ai beaucoup, beaucoup regardé sur YouTube. Ah, ensuite, j'ai acheté le matériel. Alors, j'ai commencé il y a 13-14 ans. Il faut savoir que c'était extrêmement difficile de se procurer du matériel il y a 14 ans. Donc, et j'en trouvais que sur le net. Mmh. Donc aujourd'hui c'est un petit peu plus facile, mais c'est toujours sur le net. Alors il y a quelques spécialistes en beaux-arts qui font quelques produits qui sont pas trop mal, mais c'est vrai qu'il y a, quand j'ai commencé à faire mes premiers stages manga en MJC, le matériel était beaucoup plus coûteux et beaucoup plus difficile à avoir,
à se procurer.
Ouais, c'était vraiment pénible, et puis maintenant ça va mieux.
Il vous faut quel type de matériel pour des crayons spéciaux, des...
Oui, tout à fait, parce qu'en fait, ce qu'on espère le plus, c'est se rapprocher des techniques typiques japonaises, mais c'est vrai que c'est pas toujours évident, parce qu'il y a la plume qui est pas toujours facile à maîtriser. Ensuite, on a ce qu'on appelle les poses de trame, qui sont... Alors la trame, c'est extrêmement cher. On est sur des feuilles qui vont coûter 3-4 euros, les toutes petites feuilles qu'on va coller, donc un dessin revient du coup finalisé, revient très cher. Si on cherche à avoir aussi une belle qualité d'encre, des feutres de haut de gamme, c'est 7 euros, 8 euros le feutre. Donc voilà, donc après, c'est vrai que du coup, j'ai réussi au fur et à mesure des années à trouver un matériel plutôt professionnel, mais moins coûteux que ceux qui sont utilisés par les vrais professionnels de manga. Ouais. Et qui donne un très bon résultat et qui nous permet de travailler, de faire des vraies initiations et d'avoir des très beaux résultats en manga. Voilà.
Très bien. Et au niveau des techniques, lequel utilisez-vous le plus, pardon.
Alors la technique que j'utilise le plus, moi, c'est le crayon, parce que c'est ma spécialité. Donc je suis prof de dessin, voilà. Donc le crayon, c'est vrai que le crayon, j'aime beaucoup le crayon de couleur. Donc du coup, c'est vrai que je propose toujours à mes élèves d'essayer de travailler au crayon de couleur. Il y a des très grands mangaka qui ont fait des illustrations au crayon de couleur absolument magnifiques. Et donc je leur propose aussi ça, entre autres. Mais ils ont une préférence souvent pour le feutre. Ce que je conçois, parce que c'est plus rapide, plus efficace, ça demande un petit peu moins de patience, et du coup c'est vrai, et les résultats sont absolument magnifiques au feutre.
Mais peut-être moins dans le détail par contre. C'est...
On rentre moins dans le détail, on a peut-être une... Au niveau des dégradés, on est un petit peu moins dans la précision, le feutre c'est plus... on est plus dans la lumière, l'ombre, mais c'est aussi typique de ce type de dessin, hein, de la bande dessinée du manga. Donc... C'est pour ça que le feutre, ça correspond vraiment plus à leurs attentes.
Très bien. Et donc aujourd'hui, comment utilisez-vous votre savoir-faire ? Vous nous disiez que vous faisiez des cours.
Alors je donne des cours de dessin adulte, des cours de manga pour les ados et des cours d'art plastique pour les enfants, ce qui me permet en fait de pouvoir suivre un élève de l'âge de 8 ans à l'âge de 88 ans. Donc c'est pour moi assez enrichissant, et puis c'est vrai que du coup on essaye au fur et à mesure des années d'aborder un peu toutes les techniques liées au dessin.
Et dans quelle commune ?
Alors, je travaille à Ray, à l'Université Inter-Âge de L'Aigle. Je travaille à la MJC de Verneuil, la MJC de Breteuil, de Danville et de Conches. J'ai 180 élèves.
C'est un sacré planning quand même. Hein.
C'est un planning de fou.
Attention, on attend de 88 ans, vous allez en voir.
Voilà, oui, oui. Non, je dois dire que je suis assez contente. J'ai commencé, j'avais 3 élèves chez moi il y a 15 ans. Donc voilà, et aujourd'hui, c'est devenu pour moi une véritable passion. J'aime mon métier plus que. Je me suis tentée, j'ai été artiste pendant plusieurs années. C'est comme ça que j'ai eu mes premiers élèves d'ailleurs. Et franchement, je ne reviendrai pour rien au monde artiste, je reste professeur de dessin, ça me plaît beaucoup.
Donc c'est le bouche à oreille qui vous a amené tous ces...
Tout à fait, en fait ça a été une demande des gens, est-ce que vous donnez des cours de dessin quand j'exposais mon travail, etc. Et comme ma spécialité c'était le crayon de couleur, en fait je me suis fait connaître en tant que spécialiste du crayon de couleur, et donc petit à petit les gens sont venus à moi, et c'est comme ça que j'ai commencé mes premiers cours et que je me suis découvert une véritable passion que je ne quitterai plus maintenant.
Et vous faites des expos ?
Alors, il m'arrive encore d'exposer avec mes élèves. C'est-à-dire que j'ai organisé, notamment l'année dernière, une grande exposition de dessin à Verneuil, à l'espace Saint-Laurent, qui m'a permis de montrer un petit peu, c'était pour moi un grand, grand plaisir, un grand honneur de pouvoir montrer des élèves qui ont été avec moi pendant des années et qui ont aujourd'hui, je dirais, une maîtrise du dessin quasiment identique à la mienne. Donc, du coup... je me suis dit c'est quand même dommage de pas montrer ses talents, de pas montrer ces jeunes et plus âgés qui ont bossé dur pendant des années et qui ont vraiment un niveau magnifique. Donc j'ai organisé une exposition et j'espère pouvoir en réorganiser une un petit peu plus tard. Mais
pour l'instant, il n'y en a pas de prévu.
On me sollicite pour l'année prochaine, mais c'est énormément de travail et pour moi et pour mes élèves. Donc je ne sais pas si on va la refaire l'année prochaine ou l'année suivante peut-être.
Pour un dessin, vous prenez combien de temps en moyenne c'est-à-dire, on va dire, un dessin très détaillé. Très détaillé.
Alors déjà, ça va dépendre du format, c'est très compliqué, et puis des difficultés qu'on va vouloir mettre en place. Mais c'est vrai que, disons pour un tout petit format, il faut compter 3-4 heures, et puis ça peut aller jusqu'à 30, 40, 50 heures.
Ah oui.
Oui, oui, quand on rentre dans les vrais détails, ça peut être très compliqué.
Une petite question plus personnelle, vous utilisez beaucoup de votre temps à votre vocation du coup,
oui.
Ce qu'on a entendu, mais il vous reste du temps à consacrer à votre famille ?
Alors j'essaye effectivement. Alors la chance que j'ai, c'est que je peux avoir des vacances scolaires. Il est vrai qu'il y a quelques années, je ne travaillais pas pendant les vacances scolaires justement pour pouvoir élever mes enfants et être auprès d'eux presque 4 mois par an en fait. Mm-hmm. Aujourd'hui, ils sont plus grands, donc je travaille maintenant la moitié des vacances scolaires. Et cette année, je travaille même au mois de juillet. Donc voilà, mais bon, il y en a un qui a 18 ans, l'autre 12 ans. Ils ont un petit peu, un peu moins besoin de moi quand même.
Très bien, je vous remercie Gaëlle Calvé.
Merci beaucoup.
C'est moi.
Alors nous sommes aussi avec Maëlys Tremblay.
Bonjour.
Bonjour. Alors Maëlys Tremblay, c'est un pseudo ?
Exactement, mon vrai nom c'est Ingrid Billard.
D'accord, alors pourquoi avoir choisi un pseudo ?
Parce que je ne me voyais pas étaler mon vrai nom sur internet, comme je suis beaucoup sur les réseaux sociaux, je préférais garder mon anonymat.
Très bien. Et vous, d'où vient cet attachement au manga ? Vous avez un attachement au manga, je sais que vous vous y connaissez.
Je m'y connais un peu, oui.
Et alors d'où vient cette passion ? C'est depuis la jeunesse ?
Depuis ma jeunesse, oui, avec ma sœur aînée qui, elle, était bercée dedans avec le Club Dorothée. Et donc ça s'est poursuivi comme ça.
Le Club Dorothée, donc c'était les premiers mangas, Dragon Ball Z.
Voilà, les Chevaliers du Zodiac, Sailor Moon.
Et Albator, tout ça.
Voilà.
Tout ce qu'il y avait, d'accord. Et vous avez un parcours professionnel dans le domaine du manga qui a un rapport avec soit les dessins ou soit...
En professionnel, non, mais en amateur, beaucoup.
Une passionnée, quoi. Vous
oui.
êtes une passionnée du manga. Mm. Et donc, vous faites du dessin aussi ?
Oui. Je prends des cours avec Gaëlle, justement, depuis 3 ans, qui m'a aidée à corriger des défauts, parfois tenaces. Mais j'ai commencé au collège et je me suis mise sérieusement au lycée.
Très bien. Et donc, vous avez participé à des concours de dessin ou...
Oui, sur Internet, notamment avec les éditions Kiun, qui édite donc des mangas, qui proposaient un tremplin pour les auteurs français. Et plus récemment, sur un site qui s'appelle Manga Draft, qui est dédié aux amateurs qui souhaitent publier gratuitement en ligne. C'était faire un manga sur un thème donné. Donc je le prenais pas forcément pour gagner, mais pour l'entraînement. Et avoir des règles, c'est assez contraignant.
Donc, pour revenir aussi à tout ce qui est manga, je voulais vous parler de la Japan Expo. C'est un endroit où vous êtes déjà allé à la Japan Expo. C'est un petit peu le milieu de tous les mangakas, tous ceux qui aiment les mangas.
Oui, oui, tout à fait. En tant que visiteur, j'y suis allée 7-8 ans, je pense. Et là, cette année, je vais faire pour la première fois en tant qu'exposante. Donc, avec d'autres artistes, on a pris un stand et on va vendre nos productions.
Donc là, on rentre plus dans des projets plus professionnels.
Oui.
Ou sinon, vous avez peut-être des mangas préférés vous devez avoir une collection de mangas.
Oui, j'en ai au moins 700.
700 ?
Oui.
Ah oui.
Vous avez une bibliothèque chez vous ? Comment ça se passe, une librairie ?
Une bibliothèque qui déborde.
Oui, bah, je me doute bien.
Maïs a travaillé aussi en librairie
oui.
spécialisée en mangas, notamment à Évreux, je crois.
Oui, c'est ça.
Et donc, le métier que vous aimeriez faire ?
Libraire spécialisé manga.
Bien sûr.
Et dans toute cette collection, est-ce que vous avez un manga préféré ?
Mon grand préféré, je pense que c'est Boys Next Door de Kaori Yuki, qui a aussi fait Angel Sanctuary, qui est un peu plus ancien mais plus connu. Elle a un style qui est très particulier, très doux, mais qui aborde des thèmes qui sont parfois très durs. Là, en l'occurrence, Buzz Next Door parle de la prostitution et de l'homosexualité.
Donc, des sujets qui sont rattachés à notre société. Voilà.
Alors, c'est ça qui est très intéressant aussi avec les mangas, et ça, Maëlys, elle pourra bien vous l'expliquer. En fait, les mangas touchent à peu près tous les âges et tous les styles de population. Et pour chaque style, en fait, ils ont un nom particulier.
Oui. Bah, par exemple, les shoujo pour les jeunes filles, les shonen pour les garçons, donc tout ce qui va être action avec Naruto, One Piece, Bleach.
Avec les pouvoirs.
Voilà. Où le but du héros va être de grandir, de mûrir, tout ça.
En fait, oui, il doit en fait passer des difficultés voilà. mais pour atteindre son rêve.
C'est ça.
Qui n'est pas évident au début.
Après, on a les mangas pour adultes, mais au niveau de la maturité, donc les seinen. On va avoir tout ce qui est homo-romance, donc pour les hommes c'est shonen ai yaoi, et pour les femmes c'est shoujo ai et yuri. On a aussi tout ce qui est pour les enfants, donc les kodomo.
Pokémon, tout ça ?
Pokémon, ça dépend du manga, il n'est pas forcément placé pour les kodomo, c'est plutôt un shonen au final. Mais il ne faut pas oublier qu'à la base c'est un jeu et pas un manga.
Exactement.
Et dans les mangas qui sont sortis, il y en a un qui est très très dur où les Pokémon meurent.
Exactement, oui. La grande aventure Pokémon,
voilà,
la grande aventure.
C'est ça. Donc celui-là à ne pas mettre pour les enfants.
Attention, attention.
C'est vrai, je l'ai lu aussi.
Et pour terminer, est-ce que vous connaissez des petits mots en japonais ?
Quelques-uns, oui, grâce aux animés que je regarde en VO,
bien
évidemment.
Sûr.
Donc bonjour, konnichiwa. Ou Ohayo, selon l'heure à laquelle on le dit.
Mm-hmm.
Konbawa, qui veut dire bonsoir. Sayonara, qui veut dire au revoir.
Mm-hmm.
Arigato, qui veut dire merci.
Itadakimasu.
Itadakimasu, qui veut dire bon appétit.
Oui, donc tu t'y connais bien, toi.
LV12 japonais.
Ça sent l'heure du repas.
J'en connais d'autres, mais ce sont un petit peu plus vulgaires. Donc on va éviter, mais j'en connais un petit peu.
Et pour nous, avez-vous des projets de voyage ?
Bien sûr, j'aimerais bien aller au Japon. C'est un projet qui me tient à cœur et que j'espère pouvoir faire dans les années proches. Mais pour ça, il faut un peu d'argent et du temps pour pouvoir placer au moins un mois pour profiter vraiment du Japon au prix qu'est le billet,
oui.
Autant faire toute l'île, voir les plus petites qui sont à côté.
C'est... Oui, en fait, quand vous voulez aller au Japon, c'est pour vraiment...
Voilà, tout l'aspect culturel qui est vraiment fantastique, les paysages merveilleux, et la culture en tant que telle, c'est... Voilà, c'est bluffant, c'est le Japon, ça fait rêver.
Eh bien, merci beaucoup pour cette interview.
Merci.
Je vous rappelle que nous étions avec Gaël Calvé et Maëlys Tremblay. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Merci bien. Laissez le vent souffler.
t'emmener avec moi, de t'emmener avec moi, t'emmener avec moi,
t'emmener avec moi,
t'emmener avec moi,
t'emmener avec moi,
t'emmener avec moi,
t'emmener avec moi,
t'emmener avec moi,
t'emmener avec moi.
Jersey de Granville sur Principe Actif.
Principe Actif 102.4 FM. Principe Actif 102.4 FM.
Et maintenant, un micro-trottoir concernant les loisirs. Pour ce micro-trottoir, je me suis rendu avec Thomas et Guy dans les rues de Breteuil-sur-Iton, où nous avons rencontré les habitants. Nous nous sommes intéressés aux loisirs qu'ils pratiquent, mais aussi à la façon dont ils s'informent pour trouver des loisirs près de chez eux.
Quels sont vos loisirs le week-end à Breteuil-sur-Iton ou dans la région?
Je vais à la UJC ou là où il y a des informations, à la mairie par exemple, bah, du skate, toujours du skate.
De la moto et du foot.
Beaucoup de marches, hein. Marche et jardinage.
Je vais à la piscine.
Piscine, karaté, et puis c'est déjà pas mal.
Bah, chez moi ou pas grand chose quoi.
Mes loisirs le week-end, alors c'est m'occuper de mes enfants. Sport, cyclisme, la cuisine.
Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre dans le coin?
Alors j'aime beaucoup chiner, j'aime beaucoup la déco, donc je fais les brocantes assez souvent le dimanche matin, au printemps et l'été. Et sinon j'aime la photo, donc je pars souvent dans l'Orne, un département que j'aime beaucoup, et on prend des photos de la campagne, voilà, les principales activités.
Moto. C'est la moto, nous. On s'en va souvent se balader en moto.
Du skate, du hand, c'est tout.
Danse,
la danse, hein, la danse, le cinéma.
La danse, le cinéma.
Oui. Les promenades. Les promenades aussi.
Il y a la marche à faire dans le parc. Il y a des associations aussi à Breteuil.
Oui, c'est sûr, moi je connais.
Oui, mais non, mais on te pose une question, si tu ne sais pas, tu réponds pas.
Je réponds pas, mais...
Alors sur Breteuil, moi je connais pas trop, je suis pas sur Breteuil, je suis sur Évreux. Donc après sur Évreux, il y a pas mal de sorties, soit culturelles, soit cinéma, bowling, voilà, plein d'activités sportives également.
Autour de chez nous, c'est très rural quand même, très campagne, donc si on n'aime pas la nature, c'est un peu limité. Hein.
Et est-ce que vous savez un petit peu les activités que vous pouvez pratiquer près de chez vous?
De la motocross sur Verneuil, sinon il n'y a pas grand chose, il y a le skatepark. Mais bon, moi, je suis pas beaucoup. Et puis voilà quoi.
Près de chez moi, visiter, par exemple, monument historique.
Je sais pas, les visites peut-être de monuments. La ville de Verneuil est très jolie, donc je pense qu'il y a des choses à visiter sur Verneuil. Breteuil, j'y travaille, mais je sais pas trop ce qu'il y a à visiter. Il n'y a pas grand chose, je pense, sur Breteuil. J'aime beaucoup le parc, m'y promener. Mis à part ça, dans la région, je ne sais pas trop. Voilà, c'est la campagne, le marché le samedi matin à Verneuil-sur-Avre.
Comment vous informez-vous sur ce qu'il est possible de faire le week-end à Breteuil et dans sa région?
Souvent, c'est par les réseaux sociaux ou les affiches dans Breteuil.
Après, tous les journaux locaux, on va dire. Et puis après, il y a pas mal d'associations aussi qui publient sur les sites internet. Donc voilà, par internet, Facebook, beaucoup aussi.
Internet.
La radio, éventuellement. La radio, la presse. Mais voilà, c'est tout.
Il y a des publicités affichées de temps en temps sur les bars, tout ça. La boulangerie, puis c'est tout.
Les journaux locaux, dans une moindre mesure. Bouche à oreille. Les affiches, par exemple. Voilà.
Et pas de source d'information. Non, c'est... Je sais pas, non, rien de spécial, si. De temps en temps, on va regarder les publicités sur les tableaux d'affichage ou les choses comme ça. Mais sinon, non, j'ai rien de particulier.
Donc, je regarde les journaux. Donc, voilà. Et le bouche à oreille, surtout, en fait. Ici, c'est beaucoup ça, je pense, qui fonctionne. Le bouche à l'oreille. Et éventuellement des affiches. Voilà, c'est tout.
Merci, madame.
Je vous en prie.
Il y a des panneaux, en fait, dans Breteuil. La preuve en est, c'est qu'il est installé là-bas, quoi, en fait.
Vous n'utilisez pas les journaux ou les autres médias qui permettent de...
Ça arrive de temps en temps, quand même. Ouais. La Dépêche, entre autres. Voilà, quoi.
Merci beaucoup. Bonne journée.
Mon temps. Hein. C'est ainsi que se termine cette émission d'une heure et demie, cette émission expérimentale qui a été proposée par les acteurs du sud du département, à savoir des personnes de Breteuil-sur-Iton, là où nous étions aujourd'hui, de Verneuil-sur-Avre et de Conches-en-Ouche. Plus précisément, Violette, qui était cette équipe qui a radiopropulsé cette émission jusqu'aux oreilles des auditeurs?
Oui, alors tout à fait. Donc, au programme, nous avions un micro-trottoir sur les médias locaux. Nous avions également une interview sur le Super Club Laser, un portrait de la patronne de la brasserie qui s'appelle La Terrasse, l'interview d'un photographe dont l'exposition s'appelle Verticality, une petite touche de poésie, une interview manga avec Gaël Calvé, et pour terminer, nous avions un micro-trottoir sur les loisirs.
Et comme tu réponds exactement ce que tu veux à mes questions, j'ai envie de te demander quel contenu il y avait dans cette émission aujourd'hui.
Alors nous avions donc Daniel, Manon, Elodie, Akat, Thomas, Didier, Fredo, Richard, Guy, Sylvain, Nathan et moi-même, Violette. Merci à Alain, merci à JC, merci à Damien.
Et puis ben voilà.
Et puis bonne soirée à vous tous et vous entendrez parler de nous.
Eh bien on l'espère bien, allez vous pouvez dire un grand au revoir collectif.
Au revoir.
Et on vous laisse là-dessus, restez à l'écoute des programmes de Principe Actif.